France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission proposée par Alexis Lacroix. Chères auditrices et chers auditeurs, on est très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin et nous vous retrouvons pour une conversation exceptionnelle et passionnante avec Pierre Giorgini. Pierre Giorgini, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Culture, dans le studio de France Culture. Je ne vous présente pas, vous êtes ingénieur, spécialiste d'éthique des sciences, vous êtes l'ancien directeur général délégué d'Orange Innovation à l'international, mais vous êtes aussi et surtout l'ancien président recteur de la très belle Université catholique de Lille, qui est en pointe, d'ailleurs il faut dire les choses, dans le domaine des sciences, mais également de l'épistémologie. Et vous nous revenez avec un ouvrage absolument passionnant, Intelligence artificielle et éducation, un double défi coécrit avec Antoine Blondel. Ça va être le fil rouge de notre conversation. Alors commençons par une question très simple. L'intelligence artificielle générative, elle s'impose progressivement dans nos vies, pas seulement dans le monde éducatif et universitaire. Est-ce que on peut dire qu'elle relève de ce que, en son temps, le grand philosophe qui était Platon a nommé les pharmacones, c'est-à-dire les remèdes? Un remède, ça peut vous guérir, mais ça peut aussi vous empoisonner, Pierre Giorgini.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça a été repris par un de mes maîtres à penser, qui est Bernard Stiegler, qui utilisait souvent cette expression du pharmacone. Je crois que ça s'applique assez bien. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que dans ma jeunesse, j'ai porté le badge nucléaire non merci, mais je ne porte pas le badge IA non merci. Je pense qu'il faut s'en saisir, mais alors avec d'infinies précautions et en même temps un regard éthique très aiguisé.
Alors vous avez peut-être été tenté de reproduire, non pas l'erreur, mais le positionnement de votre jeunesse, non à l'IA. Est-ce que ça a été une tentation à un moment pour le chercheur, l'intellectuel engagé que vous êtes aussi sur ces questions-là, Pierre Giorgini?
Non, parce que le non au nucléaire, ça serait trop long d'expliquer, était lié aussi à ma jeunesse, mon adolescence, etc. Non, ce qui s'est passé notamment par mon passage à l'enseignement supérieur des technologies, ma formation d'ingénieur, puis à Orange, je suis plutôt devenu, dans ces années-là, je veux dire, un technophile. C'est-à-dire, je faisais partie de ces personnes qui avaient des éclairs dans les yeux quand ils revenaient de Los Angeles aux grandes manifestations technologiques. Donc, je pense que ce qui fait peut-être un peu la pertinence de mes analyses, c'est qu'un peu comme Saint Paul sur le chemin de Damas, je suis passé par une fascination, parce que j'appelle aujourd'hui la techno-fascination, et que je dénonce aujourd'hui parce que justement j'ai fait un chemin de conversion, pas forcément allant jusqu'au bout de la pensée de gens comme Jacques Ellul ou d'autres qui eux sont allés très loin, mais j'ai été influencé évidemment par le bluff technologique et aujourd'hui j'ai un regard que je vais qualifier de lucide et de distancié.
Alors Pierre Giorgini, c'est passionnant, vous êtes universitaire, spécialiste d'éthique des sciences, vous êtes également ingénieur et vous signez un livre passionnant consacré aux relations complexes de l'intelligence artificielle générative et de l'éducation. Alors il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations en tout cas chez beaucoup de nos auditeurs. Vous êtes passé de la techno-fascination à la techno ou techno-questionnement, on va dire,
oui,
ça comme ça.
Techno-vigilance.
À la techno-vigilance, voilà. Pourquoi écrivez-vous, dans ce livre passionnant, paru aux éditions Hermann il y a quelques mois, que le défi finalement que nous pose l'intelligence artificielle générative n'est pas d'abord un défi scientifique ou technique, mais un défi anthropologique?
Oui, pour ça que je parle de double défi, parce que l'éducation, pour nous, a comme objectif principal de d'outiller, d'armer les apprenants de ce qu'il leur faut pour décider en toute autonomie, en toute responsabilité, la façon dont ils veulent être au monde. Or, c'est clair que l'IA, et d'ailleurs les écrans en général, ils agissent à deux niveaux. Ils agissent sur comment être au monde dans un monde habité par les réseaux sociaux, les écrans et l'IA. Donc déjà, il y a une transformation, on va dire, de la nature, de la finalité, même si les fondamentaux restent les mêmes. Et puis, il y a un deuxième défi qui est l'outillage pédagogique, c'est-à-dire que l'IA et les écrans sont en train de bouleverser l'outillage pédagogique et même la notion d'espace et de lieu. Que seront les lieux d'apprentissage demain? Que vont-ils devenir? Voilà, il y a un double défi en ce sens.
C'est absolument passionnant, c'est au cœur de votre dernier livre sur l'intelligence artificielle et l'éducation aux éditions Hermann, Pierre Giorgini. Nous sommes ce matin dans divers aspects de la pensée contemporaine, une émission qui a vocation aussi à défendre la raison et à défendre les Lumières. Est-ce que les idéaux des Lumières, dans ce cadre que vous venez de décrire avec pertinence, peuvent être préservés dans les enceintes scolaires, secondaires et universitaires ?
C'est une question assez clé. D'ailleurs, je suis assez adepte, sans être un spécialiste de sa pensée, puisque c'est un immense philosophe. Mais Jürgen Habermas avait l'habitude, au fond, de séparer ce qu'il appelait la raison technique, qu'on pourrait qualifier de raison scientifique, et ce qu'il appelait la raison communicationnelle.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on va trouver dans l'échange, dans l'interaction, dans la rhétorique, enfin, dans un certain nombre d'aspects. Je pense que le deuxième aspect est probablement en danger, si on n'y prête pas garde, parce que, justement, on risque, avec l'IA, les écrans, de se replier sur la dimension technique, mathématique, logique de l'intelligence, et de passer à côté de cette intelligence communicationnelle ou de cette raison communicationnelle.
Alors, on va la définir, justement, ensemble, Pierre Giorgini, c'est passionnant, parce que c'est au cœur de la réflexion que vous menez, qui est à la fois épistémologique, et on le sent bien aussi profondément, philosophique, comme quoi on peut être un ingénieur et un philosophe, hein, contrairement à ce que croient les personnes un peu enfermées dans des dichotomies trop simples. Justement, vous opposez la métisse, qui est une intelligence en situation, une intelligence sensible, une intelligence émotionnelle, avec la mathésis, qui est une intelligence plus froide, plus mathématique, justement. Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle générative risque progressivement de mettre au défi, voire de mettre en minorité, la première, c'est-à-dire la métisse?
C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, comme je le dis souvent, est pour moi une intelligence Canada Dry, c'est-à-dire, pour ceux de ma génération, on se souvient de la publicité, elle a le goût, l'odeur, etc.
Mais elle n'est pas tout à fait l'intelligence.
Ce qui est clair, c'est que la conception que l'on a de l'intelligence, la conception humaniste et conception chrétienne, c'est l'idée qu'au fond, corps, âme et esprit sont intégrés, et que donc, d'ailleurs, la confusion qu'introduisent les écrans et l'IA, c'est des confusions qui peuvent être dramatiques de ce point de vue-là, puisque par exemple, beaucoup de jeunes aujourd'hui confondent, par exemple, langage et parole. C'est-à-dire qu'on peut être, comme nous sommes là aujourd'hui, avec les auditeurs en langage, il pourrait même y avoir l'image, si on était à la télévision, mais ça ne remplace pas, en tous les cas, on ne peut pas confondre ça avec la relation incarnée. C'est-à-dire, et l'IA n'a pas de corps. C'est bien cela la question. Or, corps, âme, esprit sont en interaction permanente. Et donc l'intelligence, elle est à la fois émotionnelle, intuitive, mais elle est aussi corporelle. Je peux prendre juste un petit exemple rapide. Dans une de nos écoles de design, on s'est rendu compte que la génération de jeunes qui avaient toujours fait du design 3D par le plan, c'est-à-dire avec la souris, il leur manquait quelque chose parce qu'il fallait que la main, qui est un cerveau, qui n'est pas seulement un outil, une exosomatisation commandée par le cerveau, c'est un cerveau, la main, il y a une interaction, l'homme qui réalise avec la main, l'humain qui réalise avec la main, se réalise quelque part aussi en tant qu'humain, eh bien, il leur manquait quelque chose. Et ce qui leur manquait, c'est de sculpter des blocs de Ciporex avec un marteau et un burin, c'est-à-dire de retrouver une vision corporalisée du 3D et du volume. Et on a effectivement la même difficulté dans la confusion qu'on peut avoir entre le langage et la parole. Hein. La parole est incarnée.
Alors, ce livre est d'autant plus passionnant, Pierre Giorgini, vous êtes ingénieur, vous êtes aussi devenu, par la force des choses, philosophe, vous êtes l'ancien président-recteur de la très belle Université catholique de Lille, et vous signez un livre passionnant sur les relations entre l'intelligence artificielle et l'éducation. Mais ce livre, c'est aussi, évidemment, pas seulement un livre d'alerte, c'est pas seulement un livre où vous sonnez l'alarme, c'est aussi un livre où vous cherchez des solutions. Et les solutions, vous les trouvez avec un certain optimisme, dans le mariage des théories du grand psychanalyste Donald Winnicott et de Saint-Augustin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ?
Je crois que la grande force de Winnicott, c'est d'avoir montré que la relation apprenante, finalement, est presque plus importante que la question des contenus d'apprentissage. Mm-hmm. Et que, notamment, ce que j'ai retenu, qui m'a le plus marqué, c'est que c'est parce que moi, en tant qu'humain, avec un corps, avec de l'intuition, avec de l'esprit, avec plein de choses, je suis en apprentissage permanent, que je vais permettre à l'apprenant de l'être lui-même.
Alors, on sait que Donald Winnicott, et d'ailleurs vous y faites référence dans votre livre, Pierre Giorgini, c'est le théoricien de l'anaclitisme, hein, c'est-à-dire comment les enfants, les adolescents, s'appuient sur des figures qu'ils respectent ou qu'ils admirent, et ces figures les font grandir. Ça pose aussi la question de la place de l'admiration dans le système éducatif. Est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui pour l'admiration dans un univers très horizontalisé, celui que vous décrivez, celui des écrans, justement?
Ah bah c'est, je crois que c'est un problème fondamental. C'est que l'admiration est éphémère dans les réseaux. C'est bien le problème. C'est dans mon livre « Au crépuscule des lieux » où je montre que l'admiration, c'est une densité de liens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une situation très dense de lien sur une personne donnée, va naître une admiration. Mais elle va disparaître aussi vite qu'elle a pu naître, parce que le tissu de lien va éventuellement se diluer. Et donc, on a quelque chose de très liquide dans les questions d'admiration. Et je pense que ça, on peut faire le lien. Moi, Bernard Stiegler m'a beaucoup marqué, notamment avec son concept d'anthropisation. Alors, peut-être
pour les auditeurs. Vous pouvez le définir pour nos auditeurs.
Oui, l'anthropie, c'est pas compliqué. Enfin, à mes étudiants, je leur explique toujours ça avec deux exemples. Un exemple qui n'est pas de moi, mais lorsque vous avez une goutte d'encre au bout d'une pipette, tant que la goutte d'encre ne tombe pas dans le verre d'eau, elle a toujours une identité, elle a toujours une singularité. Elle a une histoire. Elle vient de la pipette, elle vient pas de nulle part. Et au moment où elle tombe dans l'eau et où elle se dilue, elle perd son historicité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où elle est venue, elle perd sa singularité. C'est ça l'entropie. Je prends aussi souvent l'exemple du Lego. Si vous avez fabriqué une petite forme en Lego, le jour où vous la démontez complètement et que vous mettez les briques dans la boîte avec toutes les briques, ben vous avez créé une forme d'entropie puisqu'il y a des singularisations, il y a des historicités, etc. Et donc Stiegler a appliqué ce principe au savoir et à la connaissance et aussi à l'attention. Et je crois que vous me donnez une idée, on pourrait probablement aussi l'appliquer à l'admiration. C'est-à-dire qu'on a une anthropisation de l'admiration et une anthropisation probablement des figures référentes dans la question aujourd'hui de l'éducation, du développement en général, à cause de cette anthropisation du savoir et de la connaissance.
Alors c'est absolument passionnant, Pierre Giorgini, je rappelle que vous êtes ingénieur, ancien président-recteur de l'Université catholique de Lille, et auteur d'un livre absolument passionnant que nous détaillons quand même en grande partie ce matin, sur les relations entre l'intelligence artificielle et l'éducation. Alors, le projet humaniste européen, c'est un projet d'autonomie. Emmanuel Kant, sortir les hommes de l'état de minorité dans lequel ils sont plongés. Est-ce que l'IA générative va nous y aider, ou est-ce qu'au contraire, elle nous fait reculer de trois cases dans ce projet d'autonomie des individus?
Alors là, c'est vraiment, là, le pharmacone s'applique en plein, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas vigilants, si vous prenez, excusez-moi, je fais un petit détour, mais si vous prenez Internet et que vous lisez À l'aube de l'utopie numérique, par exemple, qui est un livre tout à fait passionnant, vous voyez qu'à l'origine, Internet, c'était une idéologie, c'était une société de montée en conscience, une société à la Deleuze, c'est-à-dire d'interactions de gens de plus en plus autonomisés culturellement, etc., etc. Qu'est-ce que ça a donné? Le capitalisme de l'attention s'en est saisi, et ça a donné des choses formidables comme Wikipédia, mais aussi plein d'autres choses.
Alors on peut dire qu'on peut traduire, Pierre Giorgini, on va finir là-dessus. Le capitalisme de l'attention, c'est comment on scrolle et comment votre cerveau est littéralement dévoré par des publicités ou des sollicitations numériques qui n'ont aucun intérêt, en réalité, mais qui ont évidemment un soubassement commercial.
Oui, et qui provoque, on l'a montré dans des études récentes, y compris neuroscientifiques, un certain nombre de ravages, y compris sur le plan de la santé mentale. On a fait une étude avec Columbia, la perte de l'effort cognitif et du désir d'effort cognitif conduit à une perte d'estime de soi. Ça, c'est mesuré, effectivement, et pose des problèmes de santé mentale. Donc, pour s'en sortir, je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse un pas de côté. peut-être qu'on introduise des cours d'éducation cognitive et qu'on trouve le moyen, peut-être par l'approche compétence, de redévelopper le désir d'effort cognitif et la cognition d'une façon générale.
Un ingénieur, un philosophe au micro de divers aspects de la pensée contemporaine, ça n'est pas tous les jours. Pierre Giorgini, c'est passionnant. Malbranche. L'attention prière de l'âme. L'attention prière de l'âme, c'est plus vrai que jamais.
Oui, c'est plus vrai que jamais, bien sûr. L'anthropisation de l'attention par les écrans est vraiment, je pense que c'est une forme d'horreur. J'emploie un mot un peu dur. Et nous avons à agir au nom de l'âme justement et de son interaction avec le corps. Nous avons à agir de façon volontariste.
Alors, comme chercheur dans un laboratoire de l'Université catholique de Lille, mais aussi comme ancien président recteur de cette université, vous en tant que très impliqué dans les activités académiques, vous avez l'impression qu'il y a des formes de résistance des étudiants, des étudiantes qui s'élaborent ?
Alors, il y a des signaux faibles, c'est ce qui me rend un peu optimiste. Je pense que j'ai connu, puisque j'enseigne depuis quelque temps, j'ai connu une génération où mes propos très distanciés sur les écrans et sur les barres Google ou tout ce qu'on veut me mettaient dans une situation de vieux ringard qui n'a pas bien compris ce qui était en train de se transformer, et aussi toute une théorie un peu relativiste en disant bon, il y a eu Gutenberg, maintenant il y a l'IA, il y a rien de neuf. Bon, ça bouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants, de plus en plus, alors c'est encore un signal faible, mais de plus en plus apprennent à être prudents, à prendre distance par rapport à cela. Et ça me donne vraiment de l'optimisme. Parce que aussi, par exemple, j'utilise beaucoup de ChatGPT dans mes cours. Parce que on peut utiliser ce qu'on appelle l'IA réflexive, et ChatGPT, il y en a d'autres, hein, réflexivité ou d'autres, qui permettent l'IA réflexive, mais l'IA réflexive, c'est probablement un des remèdes au poison, c'est-à-dire d'utiliser l'IA comme un miroir d'analyse à ce qu'on produit et ce qu'on fait.
Merci infiniment Pierre Giorgini d'avoir fait un tour par divers aspects de la pensée contemporaine, de Derrida à Kant, on a brassé une matière très large. Je rappelle le livre dont vous êtes le co-auteur, Intelligence artificielle, éducation, un double défi, aux éditions Hermann. On était très heureux de vous avoir en ce dimanche à France Culture.
Également, merci. Juste un mot, je ne suis pas philosophe. Je ne veux pas. J'ai trop de respect pour les vrais philosophes.
C'est vrai.
Voilà, je suis un bricoleur de la philosophie.
Mais on entendait quand même des réflexions philosophiques dans cette conversation passionnante. Merci à vous.
Merci.
C'était divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, à la réalisation, notre ami Philippe Baudouin, à la technique, Ludovic Auger, et à la coordination éditoriale, Claire Boinsignon. Un très bon mois à toutes et tous.